La troisième lecture de cette messe que nous venons d'entendre, tirée du dernier chapitre de l'Évangile de Jean, nous a fait assister à une nouvelle rencontre de Jésus ressuscité avec ses disciples. Selon notre évangéliste, c'est la troisième et dernière apparition du ressuscité. Et au premier abord, cela m'a beaucoup étonné, les apôtres n'y sont même pas tous présents, mais seulement quelques-uns, plus exactement sept d'entre eux, Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, ainsi que deux autres. Alors que les apparitions dont nous avait parlé Jean en son avant-dernier chapitre et que nous avions médité les deux derniers dimanches surtout, avaient eu lieu à Jérusalem, une devant Marie-Madeleine et une deuxième, pour ainsi dire double, devant les disciples réunis une fois sans et une fois en compagnie de Thomas, en contraste avec le cadre de ces manifestations pascales par excellence que nous connaissons si bien, l'apparition d'aujourd'hui se présente un peu différemment. Tout d'abord, elle n'a pas lieu à Jérusalem, mais loin de cette ville sainte, à savoir en cette terre de Galilée, que l'on avait aussi nommé à l'époque la Galilée des païens. Deuxièmement, Jésus se manifeste aujourd'hui non pas dans le Cénacle, lieu où il avait institué l'Eucharistie, lieu également où les disciples s'étaient enfermés par peur, mais Jésus apparaît en un lieu au fond bien ordinaire, à savoir sur la rive du lac de Galilée, la mer de Tibériade. Et troisièmement, cette apparition n'a pas comme cadre, par exemple, une assemblée hebdomadaire destinée à la prière communautaire, mais un cadre profane, le cadre profane de la vie quotidienne, de cette vie à laquelle de simples pêcheurs de lac étaient habitués, avec ses exigences, ses nuits passées en sommeil, et dont nos sept disciples, originaires de Galilée, est revenu à leur ancien métier, un peu par désarroi probablement, avaient certainement une riche expérience. C'est là que Jésus aujourd'hui vient les rejoindre. Il vient vers ses disciples là où il se trouve réellement. Et c'est lui qui prend l'initiative de se manifester à eux, exactement en ce moment précis où, groupés autour de Pierre, ils viennent de faire l'expérience décevante d'une longue nuit de travail sans résultat, pêche infructueuse, expérience qui est peut-être comme un écho de l'expérience douloureuse de l'absence palpable de leur maître. Pourtant, c'est comme si derrière l'entreprise à laquelle Pierre avait entraîné un peu ses dix condisciples, mais qui s'était révélée infructueuse, abritée, ignorée encore d'eux, comme une visée profonde, provenant d'ailleurs, et qui un jour allait les entraîner au loin. De fait, parler d'un groupe de sept personnes dans la Bible, ce n'est jamais anodin, car le chiffre sept, un peu comme le chiffre 12, est chargé d'une signification. Mais alors que 12 signifie en général une plénitude, pensez par exemple au peuple élu avec ses 12 tribus. Le chiffre 7, quant à lui, symbolise surtout l'universalité. Dès lors, la pêche évoquée par notre évangile, devenue finalement abondante grâce à l'intervention miraculeuse du ressuscité, cette pêche n'indique-t-elle pas déjà comme en image une autre pêche, à savoir celle à laquelle Pierre est appelé dès le début de son cheminement avec Jésus. Cette pêche qui sera orientée à embrasser cette universalité constituée de toute l'humanité. L'ensemble de cette humanité que Jésus est venu sauver et qui, quant à elle, aspire de son côté, quoique souvent bien obscurément, à recevoir enfin l'annonce du salut qui ne peut venir que de Dieu. Ce salut que Dieu désire lui octroyer, moyennant la foi, la confiance qu'elle mettra en son Fils Jésus-Christ. Cependant, pourquoi cette pêche était-elle restée d'abord sans succès? N'était-ce pas parce que quelque chose avait manqué à Pierre et peut-être aussi à ceux qui étaient avec lui? Ou bien ce qui leur manque, n'est-ce pas plutôt quelqu'un, à savoir Jésus lui-même? Je voudrais préciser, non pas la nostalgie de Jésus, non pas le désir de recevoir ses conseils ou ses belles idées, et même pas son exemple, mais la réalité de sa personne divine, c'est ça qui leur manquait. Sa présence présente dans sa chair transfigurée et qui finalement ne demande qu'une chose, non seulement à Pierre, mais même à nous tous, à savoir d'être accueillis réellement dans notre vie, non pas dans notre vie imaginaire ou rêvée, mais dans notre vie avec tout ce qu'elle pourra impliquer. Frères et sœurs, je suis profondément convaincu et même un peu douloureusement conscient que la seule page d'évangile d'aujourd'hui pourrait nous fournir de longues heures de méditation partagée. Mais en ce moment, il me semble une chose que peut-être nous tous, laïcs ou religieux ou prêtres, bref, tous les membres de l'Église, nous ferions bien de renouveler et approfondir en nous-mêmes, à savoir nous rééduquer en nous y entraidant, à cesser enfin de vouloir réaliser tout par nous-mêmes, par nos propres forces et notre propre intelligence, si pauvre, comme l'avait d'ailleurs fait Pierre dans un premier temps, et réapprendre à confier tout à ce seul qui est fiable, confier tout à Jésus qui ne désire rien d'autre que de vivre avec notre permission librement donnée, au milieu et en chacun de nous, avec chacun de nous, en chacune de nos tâches et en chacun des défis qui nous tombent dessus. Et c'est pour l'accueillir mieux en nous et au milieu de nous, et pour être aidé par lui à discerner mieux sa présence, toujours et partout présente, que nous sommes réunis ici pour célébrer, re-célébrer son mémorial, son Eucharistie.